Bonsoir à tous, merci de votre fidélité à ce nouveau numéro de Sporama en ce lundi soir en direct des studios de la VOA depuis Independence Avenue à Washington. Nicolas Pineau avec vous. On va bien évidemment refaire l'actualité sportive et on attend vos appels en direct. Le 001 202 205 26 33. On va saluer nos intervenants. Il est avec nous depuis Skype en direct de Kinshasa. Thierry Kambundi, Top Congo FM, notre station partenaire. Bonsoir Thierry.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
On va saluer également Amine Biro, qui est avec nous depuis le Maroc, Casablanca. Bonsoir Amine.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
Celui qui est en France pour suivre évidemment les péripéties de l'équipe sénégalaise, Amdine Sy. Bonsoir Amédine.
Bonsoir Nicolas et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Amdine Sy qui est du côté du Havre. On retrouve également à Libreville Jules Valentin Goué. Bonsoir Jules.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
Et il est avec nous depuis Boïcon, celui que vous écoutez tous les lundis matins sur VOA Afrique, c'est Élisée Oumpatine. Bonsoir Élisée. Élisée, est-ce que vous nous entendez à Boïcon?
Alors, oui, Nicolas. Bonsoir Nicolas et bonsoir à tous.
Voilà, il s'est levé tôt ce matin, donc il dort un petit notre ami Élisée. Merci d'être avec nous. On va refaire l'actualité. On va beaucoup parler des matchs amicaux, mais on va revenir sur l'information, évidemment, de la journée. Ce lundi, on en parlait déjà la semaine dernière sur Sporama. C'est la publication des bids, comme on dit en anglais, des livres, finalement, de projets pour cette Coupe du Monde 2026. Ça y est, la FIFA qui a dévoilé les deux projets complets, le projet marocain et la candidature tripartite, États-Unis, Mexique et Canada. Je me tourne vers vous, Amine Birouk, évidemment, à Casablanca. On a, ça y est, en tout cas, vous l'aviez certainement déjà au Maroc, mais ça y est, c'est officiel en tout cas, cette candidature pour une Coupe du Monde à 48 équipes avec 12 stades, dont 5 qui existent déjà et qui seraient modernisés, et notamment le grand stade de Casablanca, 93 000 places. C'est l'un des points forts de ce dossier marocain. Alors, on parle évidemment depuis plusieurs jours au Maroc de cette fameuse task force qui va évidemment procéder à une évaluation technique des candidatures. Alors, est-ce que vous y croyez ou pas, Amine? La FIFA qui dit cette task force que va émettre un avis qui n'est pas du tout éliminatoire, qui est important mais pas éliminatoire. Est-ce que vous y croyez, vous?
En tout cas, elle aura un avis prépondérant parce qu'elle pourra influencer beaucoup de votants. Mais je rappellerai quand même une donne qui me laisse assez optimiste. C'est qu'il y avait quand même, pour l'attribution de la Coupe du Monde de rugby 2023, des notes qui avaient été données aux trois pays candidats, dont l'Afrique du Sud. Et sur cette base, l'Afrique du Sud partait gagnante. Quand il a fallu recourir au vote, et donc One Nation, One Vote, c'est la France qui en est sortie gagnante. Donc on verra si finalement la task force va respecter les règles du jeu, qu'elle les mettra en avis consultatif, elle donnera des notes. Il faudra quand même avoir au moins 2 sur 5 sur certains aspects, parce que c'est très important, notamment les stades et les infrastructures. Ce sont 5 personnes, mais il ne faudrait quand même pas laisser le sort d'une Coupe du Monde entre les mains de 5 experts, encore aussi, calés soient-ils. Il faut quand même qu'on joue le match. Jouer le match, c'est arriver au vote. Arriver au vote, c'est avoir une décision le 13 juin, à la veille de la Coupe du Monde 2018. Sur cet aspect, il y a un journal français bien connu de La Place qui s'est livré quand même à dévoiler les coulisses de la dernière réunion en Bogota du comité exécutif de la FIFA. Les Africains ont fait bloc contre cette task force. Le message n'est peut-être passé chez Infantino et chez les autres votants de la FIFA que l'Afrique ne se laissera pas faire aussi facilement. L'essentiel n'est pas, d'être battu pour l'attribution de la Coupe du Monde 2026. L'essentiel, c'est d'arriver au vote. Et arriver au vote, c'est quand même donner à l'Afrique sa chance. Parce qu'on connaît un peu les forces et les faiblesses du dossier marocain. On connaît aussi les forces et les faiblesses du dossier tripartite des États-Unis et du Canada et du Mexique. On rappellera juste que le Maroc a la chance de recevoir 70 pays sans visa. C'est un avantage, plus les stades qui existent déjà. Avant, il n'y avait aucun, maintenant, il y en a 5 qui existent. Avant, on proposait, sur les 4 candidatures marocaines, c'était des maquettes qui étaient proposées, plus 2 vieux stades. Aujourd'hui, les stades sont aux normes. Il y a aussi des infrastructures qui ont augmenté. Je pense que sur le bid qui a été présenté et dévoilé, il y a quand même des points forts qu'il va falloir mettre en valeur. Le Maroc ne part pas perdant. Encore faudrait-il arriver au vote. Et c'est ce qui pourrait ne pas arriver si, par malheur, la task force, le 6 juin prochain, après les visites d'inspection, décidait d'émettre un avis contre la candidature du Maroc.
Alors on espère évidemment que ce bide marocain ne fera pas un bide pour ce jeu de mots. On va enchaîner à présent sur les résultats des matchs amicaux sur la planète football. Vous savez que toutes les équipes se préparent, notamment les 5 équipes qui vont représenter l'Afrique lors de cette Coupe du Monde 2018 cet été en Russie. On est à moins de 100 jours avant le coup d'envoi. On va retrouver Amédine Sy qui est au Havre pour suivre évidemment les Sénégalais. Les Sénégalais qui étaient à Casablanca au Maroc et qui ont fait match nul un but partout face à l'Ouzbékistan. Qu'est-ce qu'on attend à Médine de cette deuxième confrontation face à la Bosnie-Herzégovine du côté de la tanière?
Voilà, on attend une bonne prestation des Lions de la Teranga puisque contre l'Ouzbékistan, c'était pas ça, mais on comprend un peu puisque le staff technique qui a ratissé large en convoquant 30 jours voulait voir quand même beaucoup d'éléments. C'est pourquoi contre l'Ouzbékistan, on a vu quand même une équipe bis du Sénégal qui a eu beaucoup, beaucoup de difficultés face à cette formation ouzbek. Heureusement, ils ont été menés, mais ils ont égalisé. Et il y a eu un jour quand même qui est sorti du lot et c'était son premier match. Il s'agit de Santingom. Santingom, le joueur du FC Nantes qui était amateur il y a 6 mois. Convoqué par le Sénégal pour la première fois, on l'a testé et il a séduit. Mais pour ce deuxième match, ça va être extrêmement difficile puisque le voyage entre Casablanca et Paris n'a pas été du tout reposant puisque il y avait non seulement la grève de la compagnie Air France entre Casablanca et Paris, mais lorsque les Lions ont débarqué sur le Havre à leur hôtel, ils ont trouvé des agents de la FIFA pour une visite inopinée quand même. C'était pour les contrôles d'antidopage. Donc les Lions, durant la nuit du samedi au dimanche, ont passé toute la nuit à faire des tests. D'ailleurs, l'entraîneur a été obligé d'annuler la séance d'entraînement du dimanche. Mais heureusement, cet après-midi, ils se sont entraînés sur le terrain du match à Océane et ils doivent jouer contre quand même la Bosnie demain mardi. Mais il faut dire aussi qu'il y a eu des cas de force puisque après Idrissa Ganagay qui s'est présenté à l'hôtel à Casablanca, mais il ne pouvait pas jouer. Il est retourné au niveau de son club. Il y a eu aussi le capitaine Cheikhou Kiaté qui a été aussi contraint de retourner dans son club à cause d'une grippe. Aujourd'hui également, Diaouba de Keita, le sociétaire de Monaco, est rentré. Donc, à lui, ça va faire avec tous les absents. Mais ce n'est pas une excuse. Il a dit tout de suite en conférence de presse, l'équipe nationale du Sénégal prépare une Coupe du Monde. Donc, tous ces paramètres doivent être pris en compte et il a bien compris. Ils se sont entraînés sur le terrain demain et demain ils vont jouer contre la Bosnie et ils n'ont pas droit à l'erreur. Nicolas Pino, ils doivent gagner parce qu'une équipe qui prétend jouer la Coupe du Monde, faire de bons résultats, doit s'imposer face à des équipes comme l'Ouzbékistan et la Bosnie-Herzégovine. Nicolas Pino.
Alors vous parliez des conditions de voyage, la transition est toute trouvée. On va partir à Kinshasa, retrouver Thierry Kamboundi. Thierry, le match était attendu à Dar es Salaam, ce sera ce mardi. La Tanzanie accueille les Léopards de la République démocratique du Congo et ce soir vous nous annoncez que 4 Léopards ont déjà claqué la porte.
Ah oui, ils ont claqué la porte suite aux conditions de voyage. Il s'agit de Gaël Kakuta, de Paul José Mpoku, de Jordan Ikoko. Gaël Kakuta qui évolue à Amiens, Paul José Mpoku au Standard de Liège, Jordan Ikoko qui évolue à Guingamp, tous trois évoluent en France. Puis plus Marsois Kouké qui en était à sa toute première sélection qui évolue en Angleterre. Alors qu'est-ce qu'il reproche à la sélection? C'est le manque d'organisation. Ils ont quitté Kinshasa samedi après-midi pour un long voyage de 6 heures qui les a conduits à Addis Abeba. Et de là, ils ont dû attendre 4 heures du temps à l'aéroport d'Addis pour prendre leur correspondance d'Addis pour Dar es Salaam. Voyez un peu le détour compris les Léopards de la République démocratique du Congo pour arriver à Dar es Salaam, ce qui n'a pas plu du tout à ces garçons. C'est ainsi qu'une fois arrivés à Addis Abeba, ils ont décidé de prendre leur avion le soir même, le dimanche donc, et de regagner leur club respectif pour cette raison-là principalement.
Merci beaucoup.
Mais pour le reste, tout va bien. Florent Ibenge était en conférence de presse d'avant-match aujourd'hui à Dar es Salaam. Il a dit que le groupe a retrouvé de la sérénité. Il dispose de 17 joueurs pour le moment, donc 14 joueurs de champ et 3 gardiens de but. C'est avec cet effectif qu'il fera face demain à la Tanzanie.
Merci beaucoup. Alors on va se tourner vers évidemment Jules Valentin Gouet. Jules Valentin, caprice de star ou coup de gueule à juste raison pour les joueurs congolais selon vous?
Non, un coup de gueule à juste raison, parce que vous savez que dans, pour les sélections africaines, le problème d'organisation est un problème crucial et récurrent, et que seuls les joueurs peuvent régler souvent ce genre de problème. Et quand ils montrent clairement qu'ils veulent un encadrement très professionnel, et je pense que les dirigeants finissent par se plier. Donc je crois que c'est passager, c'est pas, ça ne va pas remettre en cause le rendement de l'équipe nationale.
Merci beaucoup. Ce soir sur la planète football à Genève, le Portugal de Cristiano Ronaldo face aux Pays-Bas. Et on aura évidemment demain d'autres rencontres, notamment à Berlin, les Brésiliens qui vont tenter de se remettre 4 ans après la demi-finale lourdement perdue. C'était à Belo Horizonte, 7 buts à 1. Un drame national pour les Brésiliens, on s'en souvient. Élisée Ongpatine, hein, c'est un match amical, mais quand même une grande importance symbolique hein, pour les Brésiliens qui voudront en tout cas briller sur la pelouse des champions du monde 2014.
Bien évidemment, puisque la prochaine Coupe du Monde qui s'annonce du côté de la Russie, et on sent clairement que c'est l'objectif premier pour cette sélection brésilienne très rajeunie et très compétitive, hein, il faut le dire, puisque les Brésiliens ont de très bons joueurs, à part Neymar, il y a encore d'autres joueurs très talentueux qui peuvent apporter un de plus à cette sélection, et en témoigne ce résultat cinglant qu'a infligé cette sélection entraînée par celui là Tite, qui a donné de la confiance à cette sélection après la débâcle d'il y a 4 ans à domicile. Donc c'est dire que l'objectif reste clair, c'est bien sûr de remporter cette Coupe du Monde, surtout après avoir remporté les premières médailles hein, olympiques, hein, puisque le Brésil n'a jamais remporté, eh bien, ces choses faites grâce à Neymar, eh bien, cette sélection a remporté les Jeux olympiques. Donc il y a un peu de la confiance dans cette sélection aujourd'hui. Ça se sent sur le terrain, il y a tellement de jeunes joueurs qui sont insérés dans cette sélection, et on verra bien sûr cette sélection qui est des favorites pour remporter le titre final du côté de la Russie.
Merci beaucoup. On va également donner d'autres séries de matchs amicaux, évidemment. La Côte d'Ivoire face à la Moldavie, ce sera à Beauvais. Le Burkina Faso contre le Kosovo. Le Kenya contre la République centrafricaine. On va évidemment parler de ces matchs dans une édition prochaine de Sporama. Et puis on va peut-être prendre votre avis, alors que on me signale qu'à la mi-temps, le Portugal est mené 2-0 par les Pays-Bas lors de ce match amical. On va également avoir l'arrivée de Lionel Messi, il était incertain. Et finalement, Lionel Messi qui va pouvoir s'exprimer face à son pays d'adoption. On sait qu'il est argentin, mais face aux Espagnols, ce sera sur la pelouse de l'Atlético Madrid. C'est une satisfaction, Amdinsi, évidemment, hein, de voir le prodige argentin qui va pouvoir évoluer hein, chez finalement les Madrilènes, hein. C'est pas les Galactiques, mais c'est les Colchoneros. Hein.
Ah oui, c'est tout à fait. Quand Lionel Messi jouait en Espagne, quelle que soit la pelouse, il sera dans son jardin parce que il connaît tellement les pelouses espagnoles qu'il sera à l'aise. Je pense que même les Espagnols auront des problèmes pour supporter leur équipe puisque Lionel Messi a donné tellement de plaisir aux Espagnols et je pense qu'il sera à l'aise et il va permettre à l'Argentine de s'en sortir face aux Espagnols qui jouent un football vraiment bien, puisque quand on parlait des Brésiliens longtemps, on pensait que le football c'était l'affaire des Brésiliens, mais depuis quelques années, il faut dire que c'est l'Espagne qui joue le meilleur football, le football très beau à voir, et ils le doivent à des joueurs du FC Barcelone qui étaient majoritaires dans cette sélection. Donc, c'est un plaisir de voir Messi jouer contre l'Espagne avec le maillot de l'Argentine, Nicolas Pinon.
Allez, on va marquer une première pause hein, sur VO Afrique. Voilà, vous êtes toujours à l'écoute de Sporama, évidemment, une actualité, je le disais, marquée par de nombreux matchs amicaux sur la planète football. Et puis on a marqué le premier anniversaire de la présidence Armat à la tête du football africain. On le sait, hein, mars 2017, élection du président de la CAF qui a mis fin à presque trois décennies de mainmise sur le football africain de la part du Camerounais Issa Hayatou. L'occasion dans un entretien accordé à VO Afrique avec le malgache Armat qui se trouve actuellement sur son île à Madagascar pour inaugurer son bureau dans sa ville natale de Majunga, évidemment. On va l'entendre dans cette interview qu'il nous a accordée. On écoute le président Armat. Président Armat, bonjour.
Oui, bonjour.
Un an après votre élection à la tête de la Confédération africaine de football, c'est l'heure d'un premier bilan. Avez-vous le sentiment d'avoir déjà accompli de nombreuses tâches concernant le changement et la révolution que vous souhaitiez mener à la tête de la Confédération africaine de football ?
Honnêtement, je vous dis que je ne le vois pas. C'est une grande institution, la CAF. Ce que je peux dire, c'est que c'est en marche et il y a une nouvelle dynamisme. Et que tout le monde s'implique maintenant dans la gestion de la Confédération. Vraiment, la tâche est immense. Il y a tout à refaire à la CAF, même la gestion du personnel, l'administration. Tout doit être aujourd'hui au diapason de la gestion. Dire une gestion moderne aujourd'hui, c'est peut-être un mot, un grand mot, mais d'une gestion réelle, transparente et qui respecte la bonne gouvernance.
Oui, vous disiez à l'époque, lorsque vous avez pris aux fonctions, vous ne vouliez pas te faire de chasse aux sorcières, mais vous continuez à nominer des membres de l'administration, c'est ça, il y a vraiment aussi besoin de changer quand même au sein de la CAF, à l'intérieur.
On ne change pas trop, mais on ne peut pas aussi, il faut accepter qu'on ne peut pas mettre, disons, un cuisinier à la place d'un mécanicien. C'est pour ça que je vous dis, il y a beaucoup de choses à faire et à refaire. Donc, il faut réadapter les gens, il faut voir, même je ne vous cache pas par exemple, comment on peut estimer que, du point de vue de droit, si une personne occupe un poste de secrétaire général adjoint et qu'il ne l'est pas, on doit toujours payer au salaire d'un secrétaire général. Les règles même de cette institution doivent s'adapter. C'est-à-dire si, par exemple, des personnels, c'est d'ailleurs un point où je discute aujourd'hui avec les différents responsables. Par exemple, si les personnels d'origine égyptienne doivent être payés au salaire international, on ne doit pas les mettre sous condition d'un code de travail égyptien. Donc, tout ça, il faut revoir, il faut qu'on ait une administration digne de ce nom. C'est-à-dire, c'est une institution internationale, et cette institution internationale, il faut qu'il y ait un choix. Pas bénéficier, par exemple, des avantages du code de travail égyptien, mais vouloir aussi bénéficier des salaires internationaux, c'est pas correct.
Et vous avez...
tout ça, il faut remettre en place.
Et vous avez des...
C'est un détail que je vous dis, mais c'est important.
Vous avez des discussions là-dessus avec les autorités égyptiennes ?
On a entamé des discussions et on est déjà, parce que ce n'est pas évident aussi, de faire sortir, de modifier un accord, un agrément, c'est-à-dire un agrément entre le gouvernement égyptien et la CAF. Il faut revoir tout ça, il faut discuter. On est en phase de conclusion d'un accord cadre qui permettra, c'est-à-dire un accord de siège, qui nous permettra de travailler convenablement.
Mais la CAF...
Tout en respectant le gouvernement égyptien, mais aussi que le gouvernement égyptien respecte aussi que la CAF, c'est une institution internationale.
Mais la CAF a vocation à rester au Caire.
Oui, là-dessus, il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de discussion là-dessus.
Un des chantiers, évidemment, c'était la Coupe d'Afrique des Nations. Ça a été changé, évidemment, puisque le calendrier a été basculé. On passe maintenant à une Coupe d'Afrique des Nations organisée entre juin et juillet. Ça aussi, c'était nécessaire.
Très nécessaire, comme vous voyez. Nous ne sommes pas là pour une confrontation. On est là pour une harmonisation. Et imaginez toutes les confédérations jouent leur compétition en cette période-là, il faut qu'il y ait une harmonisation de calendrier international. Donc il faut que nos joueurs... Vous savez que les joueurs africains, vous pouvez leur demander actuellement, ils souffrent beaucoup par la passion et l'amour de leur pays et par l'intérêt financier. Parce qu'ils vont à la CAN.